L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Oz Actuali. Avec moi aujourd'hui pour vous présenter cette émission, seulement Eric. Bonjour Eric.
Bonjour tout le monde.
Et oui, on se retrouve en équipe réduite, hein, puisque bah, Adeline est partie vers de nouveaux horizons. Elle reviendra peut-être nous voir dans quelques temps. Et puis Caro n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc voilà, nous allons être dans une émission très masculine aujourd'hui. Hein, là, pour la parité, on sera pas bon. Donc aujourd'hui, évidemment, on retrouvera nos chroniques habituelles. On retrouvera une chronique que tu feras, Eric, autour d'un sujet très tendance.
C'est ça qui est d'actualité depuis quelques temps, mais là qui est bien ressorti. Ouais.
Voilà.
Donc on verra tout à l'heure.
Voilà, moi je prendrai le relais d'Adeline pour hashtag et on parlera open data aussi, donc vous verrez, ça sera assez intéressant. Et évidemment, la revue de presse tout à l'heure en fin d'émission. Mais nous recevons évidemment un invité et cet invité c'est Alexandre Rouzier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alexandre, de Pleine Nature Organisation, et un peu aussi de l'Office de Tourisme du Massegros, c'est...
Voilà, un peu des deux.
Un peu des deux ?
Un peu des deux.
Voilà, salarié de l'un, président de l'autre, c'est ça ?
Non, alors en fait, moi je suis animateur territorial à la commune nouvelle Massegros-Cosgorge, pour la moitié de mon temps, et sur l'autre moitié de mon temps, je suis donc au niveau de la communauté de communes, nouvelle communauté de communes, Massegros-Lacanorgue-Chanac, pour tout ce qui est tourisme.
D'accord.
Voilà. Et Pleine Nature Organisation est une association, donc rien à voir avec les collectivités, dont le but est de créer de l'événementiel sur le territoire Cosgorge pour développer un peu la fréquentation touristique.
On va avoir l'occasion de découvrir ça tout de suite après cette virgule. Vous pouvez bien évidemment réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Loz Actuali. C'est parti. Alors, on se retrouve pour cette première partie. Alexandre Rouzier, bah, dites-nous un petit peu plus sur qui vous êtes. Alors, vous avez commencé déjà à le faire, donc à la fois agent des collectivités sur le territoire autour du Massegros, c'est ça, hein, et à la fois impliqué dans le développement touristique. Comment on en arrive à faire ce métier-là sur ce territoire ?
Ça a été un long cheminement, hein. Ça fait maintenant près de 15 ans que je suis en poste sur le Massegros. Donc voilà, au fil du temps, en fait, le poste s'est développé. Donc de l'animation rurale, on va dire, en passant par le tourisme et tout ce qui est lié à l'enfance et à la jeunesse. Voilà, donc en fait, au fur et à mesure du temps, il y a eu des nouvelles missions qui se sont greffées et on s'est adapté par rapport aux nouvelles demandes, aux projets, etc. Donc voilà, c'est un sans cesse évolution. Aujourd'hui c'est ça, demain ce sera certainement autre chose. À l'image de la société qui évolue très très vite.
Alors ça, on aura l'occasion d'en avoir des bribes évidemment tout à l'heure. Donc Pleine Nature Organisation, c'est une association qui a été imaginée pour développer l'activité touristique, c'est ça ?
Voilà, donc au départ en fait on organisait des événementiels avec l'Office de Tourisme et on s'est vite rendu compte que c'était pas trop à l'Office de Tourisme de monter des événementiels, donc on a eu l'idée de monter cette association qui permettait au niveau juridique, surtout au niveau des assurances et des responsabilités, d'être plus en phase avec les événementiels qu'on voulait organiser. Mais il y a toujours eu une vocation quand même touristique. Donc c'était pas une association dont le but était de créer un événement en soi. Le but du jeu, c'est de créer des événements pour susciter l'intérêt et de faire venir donc les personnes sur notre territoire pour pratiquer des activités de pleine nature.
Alors, on en parle un petit peu de ce territoire en quelques mots. On est sur le Causse du Massegro, donc le bout du Causse de Sauveterre, on va dire.
Voilà, donc nous, notre territoire, c'est Causse-Gorge. Ouais. Donc, les gorges du Tarn, on a la partie, ça part des Détroits, donc, qui sont sur le territoire de la commune Massegro-Causse-Gorge, en passant par le Pas de Soucy, le Point Sublime, jusqu'à la limite, donc, Lozère-Aveyron. Voilà, donc après il y a le Rosier, mais qui est plutôt du côté de Méjean. Ouais, ouais. Donc on a toutes les corniches des gorges du Tarn qui sont un véritable terrain de jeu pour les activités de pleine nature, où on va retrouver des singles, des ravins secs, un peu de toutes typologies territoires.
Qu'est-ce qu'il y a justement comme activité de pleine nature?
Alors c'est vraiment varié, je pense qu'on retrouve pas la quasi-totalité des activités de pleine nature, mais presque. On a le canoë, on a le VTT, on a la rando, on a...
Il y a de l'escalade ?
Il y a de l'escalade. Hein, je pense qu'on doit être le plus grand site en France au niveau des voies d'escalade. Il y a à peu près 680 voies d'escalade sur le Cirque des Baumes. Ces dernières années, donc, il y a eu un gros équipement, de gros efforts de fait par les collectivités, que ce soit la communauté de communes ou le conseil général ou la commune de Saint-Georges. Donc, où vraiment, il y a eu un gros travail de remise aux normes de toutes les voies, des chemins d'accès, etc. Donc, vraiment un gros boulot là-dessus. Voilà, après, vous avez le sol élastique, donc le 107.
Il y a une via ferrata ?
Il y a une via ferrata. Non, alors là, non, on n'a pas de via ferrata. Il y avait un projet. On a encore des projets dans les cartons hein, qui vont sortir, on l'espère, assez rapidement. Voilà, donc vraiment, on essaye de développer un peu des activités un peu atypiques aussi, parce que dans les sports de pleine nature, il y a tout le monde maintenant qui vend la pleine nature. Il y a beaucoup de destinations qui vendent la pleine nature. Et à un moment, il faut arriver à centraliser, à avoir une offre assez diverse et variée, et essayer de trouver vraiment voilà, le petit plus. Donc on est sur du X vertical, donc avec voilà, avec une montée chronométrée, donc mettre en place avec les nouvelles applications, etc., sur des vias souterrainas, sur plein de produits comme ça, où on essaye de varier pour justement pour susciter l'intérêt. Toujours ce qui est intéressant, c'est de monter des produits en fait qui nous permettent de faire réfléchir les gens et surtout d'interpeller les personnes, de dire, ah t'es, il y a ça là-bas, c'est intéressant, c'est branché pleine nature, etc. Donc en fait, c'est un effet boule de neige et qui fait que les gens peuvent venir pour d'autres activités.
Alors justement, quand on regarde les activités que propose Pleine Nature Organisation, donc il y a le trail, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est peut-être la première activité qui a été imaginée, non ?
Non, en fait, la première activité, on avait fait un raid nature. Raid nature des Gorges du Tarn qui remonte il y a 10-12 ans. Donc on a fait 7 éditions et en fait on est arrivé à une vitesse de croisière, on va dire. On avait nos 100 équipes qui venaient régulièrement et en fait on est arrivé à un moment où on s'était rendu compte qu'on faisait un événement pour faire un événement. Mmh. Et en fait depuis le départ nous on s'était fixé de dire on va faire des événements pour susciter l'intérêt, faire revenir les gens et essayer voilà, de créer une dynamique. On n'est pas une association sportive à part entière où là on peut organiser un événement comme il y en a tant d'autres.
Mmh. Et le but c'est toujours le tourisme. En fait.
Voilà, le but nous derrière c'est de faire venir les gens, de faire parler et surtout d'assimiler notre territoire à pleine nature. Donc on avait fait un raid nature et après donc on a basculé sur le trail, rando gourmande et rando nocturne.
Parce que dans la nature, il n'y a pas que le sport. Est-ce que vous essayez un peu de développer
voilà.
Ce qui est autour ouais.
Voilà. Donc après, c'est vrai que le raid, on était venu à avoir des personnes très spécialisées et ça devenait assez élitiste. Nous, notre leitmotiv, c'est un peu le grand public. Donc on essaye toujours, même dans nos manifestations, alors des fois, on en a le reproche des personnes qui sont un peu spécialisées, au milieu, on mettait un gros pas. Donc parce que nous on voulait faire quelque chose de convivial, mais c'est vrai que le sportif est vraiment qui est là pour l'événement en lui-même, il est là pour faire une performance, et c'est vrai que de mettre un gros repas à l'Igo saucisse au milieu, on n'est plus du tout dans cette démarche-là. Nous voilà, ce qu'on voulait, c'était vraiment un grand public, que les personnes viennent entre amis, se lancent un petit défi. Voilà, c'est ça un peu le public cible.
C'est en tous les cas un territoire qui est très impliqué depuis déjà un certain nombre d'années sur cette thématique-là des activités de pleine nature, effectivement avec ce site majeur qu'est le Cirque des Baumes, avec toutes les et avec toute cette complexité aussi de entre Causse et Gorge de la pente, parce que la Côte des Vignes, c'est quand même ou les chemins, c'est quand même sacrément pentu.
C'est costaud.
Donc il faut quand même avoir un peu la forme pour être pour pratiquer ces activités par chez vous.
Oui, après il y a toujours des alternatives. Il y a toujours des alternatives. Bien sûr qu'on va pas mettre un dénivelé de 400 mètres. On l'a eu fait. La première épreuve, quand on avait fait la rando gourmande, on avait été un peu ambitieux sur le parcours. Les gens s'en rappellent encore. Hein. Ça va faire six ans. Donc les gens s'en rappellent. Moi, j'ai petite anecdote. J'avais ma belle-mère qui l'avait faite. Je crois que si elle arrivait, elle me trouve. J'avais passé un mauvais moment parce qu'on y avait vendu quelque chose qui était un peu plus dur que ce qu'on avait annoncé. Voilà. Mais en fait, on se réadapte au fur et à mesure des épreuves. Et on essaye vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre. Et voilà, que ce soit le tout venant qui puisse venir pratiquer, pas que le spécialiste.
Bien, on aura l'occasion d'approfondir tout ça dans la deuxième partie en parlant un petit peu plus précisément du trail des Gorges du Tarn by Salomon. C'est, je recherche la date, le dimanche 9 avril, donc c'est tout bientôt, c'est ça, hein ?
C'est bientôt, voilà. Ouais, c'est bientôt.
Allez, une petite virgule et on retrouve la chronique d'Eric. Et voilà, donc la chronique d'Eric, c'est parti.
C'est ça. Quand j'ai préparé ma chronique, en fait, Caro, elle devait venir. Donc, oui. Je me demande si elle n'a pas fait exprès, justement, de ne pas venir, vu comment va commencer ma chronique, en fait. Suite de la chronique, je pense que...
Elle a dû le sentir.
Je pense que il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, imaginons, justement, que Caroline, elle ait rendez-vous avec Julien Clerc. On sait tous qu'elle aime Julien Clerc. Le rendez-vous se passe très bien, c'était parfait. Tout le monde a l'air très content. Mais Julien Clerc ne la rappelle pas. Donc, pourquoi ? Alors, A, il est trop timide pour la rappeler. B, il a oublié son téléphone dans une yourte mongole alors qu'il était parti en terre inconnue avec Frédéric Lopez.
Là, ça serait un combi pour Caro.
C, il a été enlevé par les extraterrestres. Ou D, il n'a pas envie de la rappeler. Bon, le problème, c'est que j'aurais bien envie de croire A, B ou C. Parce que ça me rend triste que Julien Clerc, il n'ait pas envie de rappeler Caroline. Il faut se rendre à l'évidence, la bonne réponse est D. Il n'a pas envie de la rappeler. Bon, on a tous cette impression à un moment ou à un autre que ce qui nous arrive n'est pas normal et qu'on avait forcément affaire à un complot. Pour certains, le monde serait ainsi dominé par des sectes assez puissantes pour ourdir. Oui, je sais, le verbe ourdir est un peu passé de mode, mais voilà, c'est le seul moment où je pourrais le placer dans une chronique. Donc, pour ourdir... Donc leur complot dans l'ombre, tels les Illuminati ou les prieurés de Sion, ou encore plus proche de nous, les reptiliens. Hein, monsieur Barack Obama ? Donc, le fait est que les théories du complot foisonnent dans le monde. Aussi, il ne se produit pas un événement violent ou même dramatique sans que des voix s'élèvent ici ou là pour dénoncer l'existence d'un improbable complot. Ce genre de rumeur appartient au genre théorie du complot. Alors, l'expression peut paraître malheureuse, elle donne en effet à penser que les complots n'existent pas. En fait, si, il en existe des complots. Là, il y a qu'à voir, par exemple, justement, on a déjà parlé de l'affaire Monsanto avec les OGM, par exemple, ou sinon tous les scandales qu'il y a eu, tous les scandales pharmaceutiques ou les scandales écologiques. Donc oui, les complots, ça existe. Non, ce qui caractérise la théorie du complot, c'est d'attribuer un événement dramatique... Donc, à un complot ourdi. Bon, ça y est, je recommence avec ce verbe. Bon, en secret, par un individu ou un groupe plus ou moins important. On parle aussi d'ailleurs de conspirationnisme. Ce qui est amusant, si l'on considère que dans le mot conspirationnisme, il y a sionisme. Coïncidence ? Non, je ne crois pas. Donc, il n'est ainsi pas difficile de comprendre que le monde est une somme d'intérêts divergents et conflictuels. Les États ont leurs propres intérêts. Ils les défendent, du moins quand ils sont bien dirigés, ce qui est loin d'être le cas partout. Mais les États eux-mêmes sont souvent soumis à des pressions souterraines entre plusieurs tendances et lobbies. Ainsi, tous les États, autrement dit leurs représentants, mentent. Et on peut étendre cette affirmation aux entreprises, voire aux grandes organisations internationales. Ils mentent par omission, par volonté de cacher des vérités dérangeantes pour ne pas affoler l'opinion publique, ou bien quand il s'agit d'élus, pour ne pas être contraint de se justifier devant les électeurs. Ainsi, là, M. Fillon a déclaré qu'il subissait le complot qui venait de l'Élysée plutôt que de justifier justement les emplois fictifs de sa petite famille. Alors, bien sûr, il ne ment pas toujours, mais il ment de temps à autre. Et c'est cette part de non-vérité qui alimente la machine à fantasmes, qui est divisée en quatre points. Que rien n'arrive par hasard, tout ce qui arrive est le résultat de volontés cachées, rien n'est tel qu'il paraît être, tout est lié, mais de façon occulte. Les complotistes utilisent de plus en plus la défiance vis-à-vis de toute forme d'information ou d'autorité. Ils exploitent les zones d'ombre. Alors, l'une des premières explications de leur succès consiste à dire que la vision complotiste est utile car elle protège de l'angoisse. Dans un monde soumis à un flux toujours croissant d'informations, soumis à l'incertitude, l'univers du complotiste a le mérite d'être simple. Chaque événement ou phénomène fâcheux que l'on dénonce, que ce soit la guerre, le chômage, la pauvreté, l'assassinat d'une personnalité, un attentat a une cause unique, l'action volontaire d'un groupe, dénoncé comme l'incarnation du mal. Moi, du reste, j'ai jamais cru qu'Elvis Presley avait disparu.
Ni Michael Jackson.
Non. Non,
il est vivant.
Pas. Oui, il est vivant, il est sur la Lune.
Ok.
Donc, c'est une vision du monde simple, donc facile à expliquer et à comprendre. Ce qui en fait l'attrait non seulement pour les inventeurs des complots, mais aussi pour leur public. Les populations sont avides d'idéologie, alors d'une vision du monde qui expliquerait tout. Donc, on aime croire que la réalité nous soit contée comme une bonne histoire. Donc ça remplace un peu la perte des croyances dans les religions plus traditionnelles, où cela aide au contraire à les relancer. Alors pourquoi on y croit si facilement ? Si je prends l'exemple de l'astronomie, donc après des siècles à passer à penser que le Soleil tournait autour de la Terre, donc certains astronomes ont découvert que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Puis on a montré que le Soleil, la Terre et les autres planètes faisaient partie d'une galaxie, et que celle-ci, galaxie, était parmi tant d'autres galaxies. Donc, du coup, la possibilité qu'il y ait d'autres êtres intelligents de l'univers a été prise au sérieux. On peut donc comprendre que des gens en viennent à admettre que des extraterrestres débarquent chez nous en secret. Ainsi, un des complots les plus répandus actuellement serait que le monde est dirigé par une race alien qui peut changer de forme à volonté. Alors, ils occupent tous les postes clés de notre société et leur but est bien évidemment de manipuler l'espèce humaine à leur profit. Donc, la famille Bush et la famille royale britannique en sont bien évidemment. Pour survivre, ils sont obligés de consommer du sang humain et ils ne s'en gênent pas pour le faire. En fait, il n'était pas si cool, Barack Obama. Bref, plus on croit que tout est possible, plus on est prêt à l'admettre. Quant au développement formidable des technologies modernes avec Internet, on pourrait penser que ça allait aider à hiérarchiser les savoirs. Et au contraire, non. C'est-à-dire que c'est une profusion de savoirs et c'est justement de la désinformation. La matière y est abondante. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez peut-être entendu parler des cercles de culture, les crop circles. Mmh. Bon, en anglais, mais c'est la semaine de la francophonie, alors j'utilise le mot français.
Donc, parler de trail tout à l'heure, c'est très bien.
Donc ce sont ces cercles dans les champs qui... Vous avez déjà vu ces images de cercles dans les champs. Il y a même eu un film qui avait été sorti, mais c'était Complot, je crois, justement, le nom du film, qui sont attribués à des extraterrestres. Et alors, des études ont été montrées pour voir quelle était la portée de cette croyance. Et justement, en faisant des recherches là-dessus, on a réalisé que 9 personnes sur 10, quand elles font des recherches sur Google, ne dépassent jamais la première page. C'est-à-dire qu'on regarde les informations qu'il y a sur la première page de Google, mais on passe jamais à la deuxième. Et en sachant que 75 à 95% à peu près des informations sur ce phénomène sont pour faire croire que ça vient de choses d'extraterrestres, en fait, on est presque obligé de croire que ces cercles viennent de... d'une autre galaxie, finalement. Donc après, est-ce que ces théories du complot sont nuisibles ? Alors, quand on parle de ces cercles de culture ou du rendez-vous manqué de Caroline avec Julien Clerc, non, c'est pas forcément très, très problématique, bon, à part peut-être pour Caroline. Mais il faut savoir que, justement, ça, au Moyen-Âge, en tous les cas, on ne s'est pas contenté d'imputer des complots aux lépreux et aux juifs, on les a tués pour ça. Donc la croyance dans ce complot des juifs a aussi servi d'auto-justification à Adolf Hitler. Plus généralement, dès qu'on utilise des complots enfin, vis-à-vis d'une minorité, ça l'empêche forcément de s'intégrer à la communauté. Et après, plus récemment, c'est vrai qu'on l'a vu aussi, c'est les rumeurs qui dénonçaient le danger de tel ou tel vaccin. qu'il y aurait un complot entre l'État, les laboratoires et les gouvernements. En fait, ça a eu pour conséquence justement qu'on a baissé certaines vaccinations et on a vu réapparaître certaines maladies comme la rougeole ou la polio qui resurgissent. Après, comment lutter contre justement ces théories du complot ? Mais là, c'est ce qui est le plus compliqué, parce que nous-mêmes, dès qu'on pense savoir quelque chose, on essaye toujours de se rassurer. Donc, c'est-à-dire qu'on va toujours rechercher qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on était en train de penser. Et alors qu'au contraire, il faudrait penser qu'on a tort et s'auto-donner tort pour justement et vraiment rechercher quels sont tous les éléments. Et c'est un peu le problème d'Internet. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à être de plus en plus des complotistes endurcis, parce que ces jeunes, ils sont seuls sur Internet, ils parlent pas forcément d'actualité avec leur famille, et ils sont enfermés à l'intérieur de ce qui les informe. Alors, et en plus, ils vont toujours sur les mêmes sites, on va toujours sur les mêmes blogs, et on va toujours trouver quelque chose qui conforte nos idées. Et en plus, après, c'est très difficile de faire changer d'avis, parce que c'est rentré dans l'esprit, et puis... Alors, quelques aimants pour essayer de faire changer d'avis, c'est d'éviter de répéter les arguments que l'on veut combattre, parce que sinon, ça les fait rentrer dans le cerveau, ces arguments-là. Plus on essaye de les nommer, plus ils sont intégrés. Il faut aussi utiliser peu d'arguments, mais les énoncer avec force, et essayer de discréditer les sources de la fausse croyance. Après, il y a une autre stratégie, alors préventive, celle-là est certainement la meilleure, c'est de développer l'esprit critique. Alors, par contre, il faudrait le faire dès l'enfance pour avoir plus de chances de succès. Et il ne s'agit pas seulement, en effet, d'apprendre à distinguer le vrai du faux, mais aussi d'acquérir assez de flexibilité d'esprit pour arriver à changer d'opinion sans problème, pour reconnaître ses erreurs sans en faire un drame. Oui, accepter d'avoir tort.
Ça peut rejoindre aussi pour la partie vraiment liée aux questions d'actualité, au fact-checking qui a été évoqué par Adeline il y a quelques émissions.
C'est ça, exactement. Donc pour terminer ma chronique sur la théorie du complot, si justement les histoires de sociétés secrètes vous intéressent, moi je vous invite plutôt à aller dans la vraie fiction, et je vais vous parler juste deux petits mots d'une trilogie d'Antoine Bello, dont le premier tome s'appelle Les Falsificateurs, et c'est l'histoire d'une organisation secrète internationale appelée le CFR, qui falsifie la réalité mais dont personne ne connaît les motivations. C'est l'histoire de quelques-unes des plus grandes supercheries de notre époque. De Laïka, la première chienne dans l'espace qui n'a jamais existé, de Christophe Colomb qui n'a pas découvert l'Amérique, et des fausses archives de la Stasi. Bon, c'est l'histoire d'un jeune homme embauché par le CFR qui veut comprendre pourquoi et pour qui il travaille. C'est l'histoire d'une bande d'amis qui veulent réussir leur vie sans trop savoir ce que cela veut dire. C'est d'une certaine façon l'histoire de notre siècle. Mais surtout n'oubliez pas, si tout vous paraît normal, sachez pourtant que la vérité est ailleurs.
Bien, merci Eric. On va tout de suite continuer cette émission où il n'y a pas de complot, a priori.
C'est Caroline qui a fait exprès de ne pas venir.
Oui, c'est ça. Et ça va être la première coupure musicale de notre émission. Et c'est le choix de l'invité, comme d'habitude. Et donc, Alexandre, qu'est-ce que vous avez choisi ?
Mais j'ai choisi Ain't No Sunshine de Bill Withers. Pourquoi ? Parce que hier, quand on m'a demandé, j'étais sur. J'écoutais sur la tablette YouTube et voilà, j'étais sur cette musique-là que j'adore. Il n'y a pas d'histoire particulière, hein, je vous rassure. Hein, voilà. Donc c'était vraiment par rapport à une chanson que j'aime bien.
Moi aussi, j'aime beaucoup ce morceau.
Eh bien, on l'écoute, c'est parti.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know.
I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Deuxième partie de notre émission, et on se retrouve évidemment dans ce Los Actuali avec Alexandre Rouzier de Pleine Nature Organisation pour parler de la 7e édition du Trail des Gorges du Tarn. Effectivement, Eric, tu nous disais à l'instant qu'on était dans la semaine de la langue française, c'est un peu perdu pour le mot trail. Mais déjà, qu'est-ce que c'est un trail pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore bien perçu ce mot dans ce vocabulaire des activités de pleine nature?
Alors, le trail, c'est vrai que c'est très codifié par rapport à la dénomination. C'est une course nature. Une course nature, mais en fait, on appelle course nature quand c'est inférieur à 21 km. Et au-dessus de 21 km, on peut appeler ça un trail. Voilà, donc après, dans l'esprit, au niveau francophone, on va dire c'est une course nature.
Forcément à pied, ou ça peut être avec d'autres à vélo, ou non,
c'est à pied. Trail, c'est à pied. Après, on est sur si on fait du vélo, on peut le conjuguer. Comme la semaine prochaine, il y a un run and bike, un vétathlon à Moroda. Mmh. Voilà, donc après, on est sur d'autres d'autres noms, d'autres dénominations. Les rennes nature, c'est course à pied, canoë, VTT, course d'orientation. Trail, c'est vraiment de la course à pied.
Alors, qu'est-ce que vous proposez pour cette 7e édition du Trail des Gorges du Tarn? Alors, je vois qu'il y a deux parcours, c'est ça?
Il y a deux parcours, oui. Il y a deux parcours en course à pied, donc chronométrés, hein, un 11 km et un 26 km. Donc, ces deux circuits partent donc de Saint-Rome-de-Dolan, du village de Saint-Rome-de-Dolan, qui est en corniche des Gorges du Tarn. Et on part sur 100% nos bitumes. Donc, c'est vrai que c'est une marque, entre guillemets, de fabrique où vraiment, on s'est vraiment creusé les méninges et essayé de trouver des parcours où il n'y avait pas de bitume, vraiment pour être sur de la course nature, qui n'était pas le cas sur la première édition, où on a vu des contraintes au niveau de l'organisation, où il y avait une grosse partie sur du bitume. Là, il y a 100% nos bitumes. Voilà, donc c'est un parcours, comme on disait, en corniche des gorges, où on va faire une escapade dans l'Aveyron, donc au niveau de Saint-Marcellin, pour les initiés, les gens qui connaissent, et des Glazines, qui sont des villages troglodytes au milieu des gorges, donc qui sont magnifiques et accessibles que par des singles. Et donc on fait une boucle, on revient à Saint-Rome.
Ah, il y a quand même du dénivelé, hein. Là, j'ai les profils sur le site internet. Il y a quand même du...
En dénivelé, on est sur 480 mètres à peu près sur le 11. Et aux
pas une seule fois.
Non, pas une seule fois.
C'est en tout. Oui.
Voilà,
il y a quand même une belle marche. Hein.
Donc, ouais, on est sur à peu près 450 mètres, donc en tout et pour tout, c'est le dénivelé des gorges. Hein. Du fond des gorges au plateau, on a en moyenne aux alentours de 430-450 mètres en dénivelé. Donc du coup, le 11 km 450 et le 26 1000. Donc c'est dans les normes, c'est pas un trail hyper compliqué, mais il est quand même assez exigeant parce qu'il est assez varié et comme on dit souvent, il y a beaucoup de coups de cul à mettre.
Alors, est-ce qu'on arrive à profiter du paysage et avoir justement cette notion touristique avec une course un peu sportive, enfin, voilà, qui est quand même un effort physique. Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous étiez arrivé un peu au bout avec le raid. Là, comment vous le...
Alors après, chacun prend ce qu'il a à prendre. La personne qui vient pour le chrono, elle viendra exclusivement pour le chrono. Et peut-être qu'elle ne prendra pas le côté touristique. Voilà, elle va, ça va être un défi sur lui-même, etc. Les temps des années passées, voir si on est toujours autant en forme que l'année dernière, etc. Et après, donc, il va y avoir la personne qui vient là parce que c'est le site qui l'intéresse. Et on voit, donc, on a jumelé donc, à ce trail une rando qui marche très bien. La dernière, on fait, sur la rando, on fait 250 personnes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des familles qui viennent. Donc il y a un de la famille qui va courir, qui va faire la course, et le reste de la famille va faire la rando. Donc,
au lieu de l'attendre, finalement.
Voilà, au lieu de l'attendre, on fait un petit parcours de 11 km en rando, où entre parenthèses, on reverse la totalité des inscriptions à la Ligue contre le cancer. Donc sur la rando, la dernière, c'est à peu près 700-750 euros qu'on reverse directement. Et ça permet, voilà, ça permet d'avoir des familles. Donc là, en préinscription, on a des familles, mettons, on a 25 coureurs qui viennent de Clermont-Ferrand, qui descendent en famille et qui s'inscrivent également sur la rando. Donc du coup, ça fait un petit week-end chez nous. Et voilà, et donc nous...
Et donc l'objectif de base est rempli, quoi.
Voilà, l'objectif de base est rempli. Voilà, donc on arrive à... On essaie de faire venir les personnes de loin.
Alors, sur les 11 km, ils ne suivent pas le même parcours que la petite course.
Alors, cette année, la rando, on a changé. Ça faisait 6 ans qu'on faisait la même rando parce que, bon, il y a beaucoup de contraintes au niveau de l'environnement, avec la protection, la Ligue des oiseaux, etc. Donc, on a beaucoup de contraintes où on ne peut pas faire ce qu'on veut. On négocie les parcours avec la LPO, avec le parc, avec Natura 2000, etc. Parce qu'il y a quand même de fortes contraintes environnementales. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on essaye de trouver un juste milieu en collaboration avec tous ces services. Et on ne peut pas changer chaque année de parcours non plus. Donc le trail, les circuits n'ont pas changé parce qu'ils ont été négociés et que c'est compliqué de passer ailleurs avec 350 participants. Et par contre, la rando, ouais, on l'a changé pour amener un peu de nouveauté.
D'accord. Oui, en plus, le fait de connaître finalement un peu le parcours, pour les habituer, ça, effectivement, il y a la notion de pouvoir se comparer avec l'année précédente, il y a 2 ans, un peu comme sur d'autres courses où le parcours est inchangé.
En fait, il y a tout type de réaction. Il y a la personne que, entre guillemets, ça va gonfler. Dit, moi, je ne viens pas parce que j'ai déjà fait. Voilà. Et puis, il y a la personne, c'est une référence, comme le Marjoman de Pulêtre.
Ouais, c'est ça.
C'est un défi sur soi-même en disant, mais la dernière, j'ai fait à 1h10, cette année, je veux battre le record. En fait, on a tout type de réactions. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question. Voilà, après, il y a tout type de réactions. Il y a des personnes qui viennent pas de 2-3 ans, qui reviennent.
Vous le faites?
On le reconnaît. On le reconnaît, oui, après on le fait. Après, moi je suis plus organisateur, on va dire, que trailer. Hein.
Alors ça s'appelle Trail des Gorges du Tarn by Salomon. Ça veut dire qu'il y a un partenariat avec cette marque. Comment il se concrétise pour vous?
Oui, on a un partenariat. Donc déjà, un petit mot par rapport au partenariat. On a beaucoup d'entreprises lozériennes qui nous soutiennent, donc je ne les citerai pas toutes au risque d'en omettre, mais il y a un gros partenariat parce que en fait ce trail est englobé également avec la rando gourmande, on parlera moins, et la rando nocturne, mais qui représente un budget assez énorme. On est sur un budget quand même de 30-35 000 euros, donc sur toutes les épreuves, où il y a à peu près 1500 personnes qui participent à une de ces épreuves-là, et on a beaucoup de partenariats, et Salomon en fait ça s'est fait parce que c'était un des leaders du marché du trail et qu'ils nous offrent une dotation pour la remise des prix, et que nous, ben voilà, associer le nom de la marque à l'épreuve, c'était intéressant en termes d'image. Donc voilà, c'est
du donnant-donnant, finalement.
Voilà, du donnant-donnant.
S'y retrouve, finalement.
Voilà.
Ils vous donnent des conseils, justement, par rapport au parcours ou tout ça, vu qu'ils sont spécialistes quand même là-dedans, ou pas du tout?
Non. Là, c'est strictement un partenariat entre guillemets commercial où eux, ça les intéresse aussi, ça leur coûte pas grand-chose, ils s'associent à un site remarquable, les Gorges du Tarn. Ils nous donnent quelques petites dotations, nous, ça nous intéresse parce que ça nous fait ça de moins à acheter. Et voilà, c'est donnant-donnant. Hein. C'est donnant-donnant. Mais vraiment, plus sur le partenariat, par contre, avec des entreprises lozériennes, qui là, vraiment, C'est bien parce que c'est du mécénat quelque part, hein, parce que c'est vrai qu'en termes de retombées, soyons clairs, quand des entreprises soutiennent des événements, en termes de retombées, bon, c'est bien pour leur image, mais voilà, c'est quand même assez limité.
Il y en a qui contribuent, j'imagine, peut-être aussi de façon en nature, peut-être par des produits.
Voilà.
J'imagine sur les repas, sur les ravitaillements.
Voilà, chacun en fonction de ses moyens fait. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont contents de le faire parce qu'ils participent aussi à la vie du territoire. Et c'est important hein, parce que l'événementiel, en termes touristiques, en termes de vie sociale, parce que derrière, il y a beaucoup de bénévoles, etc. Donc, du coup, ça crée quand même du lien social. Et ça fait vivre notre territoire. Je pense qu'en Lozère, s'il n'y avait pas les événements, serait un pan de l'économie, il y aurait beaucoup de pans d'économie qui en souffriraient. Hein. C'est vrai que ça crée quand même une dynamique et une vie.
Alors, pour être un peu pratique pour les trailers qui nous écoutent, hein, déjà, il faut s'inscrire, première étape.
Oui. Soit on peut donc télécharger sur le site internet, on tape Trail des Gorges du Tarn sur Google, comme ça tout le monde se rappellera. Si on dit le nom, ça va être un peu compliqué.
plaine-nature-organisation.fr.
Voilà.
Bon, c'est pas non plus...
C'est pas non plus très dur, mais c'est vrai que dans 2 heures, on se met au défi, il n'y aura pas grand monde qui s'en rappellera.
On le mettra sur notre page Facebook.
Super. voilà, donc on peut télécharger le bulletin d'inscription, le remplir et donc le renvoyer. Encore, donc pour l'instant, par voie postale, mais on travaille sur une préinscription, une inscription en ligne. Pas pour cette édition, mais ça va venir assez rapidement.
Il faut s'inscrire avant quand ?
Non, en fait, on peut s'inscrire le jour J. Hein.
Ah, d'accord.
En fait, il y a un prix préférentiel si on se préinscrit, parce que nous, ça nous permet un peu de jour J au niveau des ravitaillements, etc. Mais on peut s'inscrire le jour J, donc le dimanche 9 avril, vous pouvez venir avec votre paire de chaussures, un short et vous présenter à Saint-Rome d'Odolan pour participer à...
Un certificat médical aussi ?
Un certificat médical. Ouais. Voilà, certificat médical datant de moins d'un an.
Ou une licence pour... non ?
Ça oui, une licence à la Fédération Française de Triathlon.
D'accord.
Voilà. Donc,
ça va attaché au triathlon et pas à l'athlétisme ?
Athlétisme, FFA. C'est ça, FFA. Notre triathlon, c'était pour les raids. Ouais. Donc,
d'accord.
C'est FFA, ouais.
D'accord. Bon, voilà. Donc, OK, on s'inscrit. Et ensuite, quel est un peu le programme le 9 avril comment ça se passe ? Expliquez-nous tout.
Ça se passe, c'est très simple. Donc, on s'inscrit le matin. Il y a des tables donc, pour prendre les inscriptions. Après, il y a deux départs. Un départ à 9h30, un départ à 9h45. À 9h30, c'est le 26 km. Donc qui part, et à 9h45, le 11 km, donc c'est un départ mass start hein, qu'on appelle, donc tout le monde ensemble, enfin 26 et 11. Après il y a un balisage hein, de mis en place, donc c'est là où il y a le plus gros du boulot, avec de la rubalise, donc nous on fait 100% rubalise, pas de peinture, c'est un engagement qu'on a pris au niveau des partenaires. Donc voilà, on fait le parcours, il y a un ravitaillement, un sur le 11 et deux sur le 26. Et après, donc, à l'arrivée, il y a un gros ravitaillement. Voilà.
Alors, on met combien, à peu près combien de temps pour faire ces 11 km ou ces 26 km ? Entre les premiers et les derniers.
Les premiers, le 11, c'était à peu près 55 minutes.
Ah oui.
Ouais, et le 26, ça dépasse aux alentours d'une heure 20 de mémoire. Non, je dis une bêtise, ça va être 1h40 de mémoire. Hein. Mais il y a des années où, voilà, où ça va vite. Hein.
Et puis
ça
la météo doit y jouer.
La météo y joue.
Oui, bien sûr.
La météo y joue, mais souvent, contrairement à ce qu'on pense,
il ne faut pas qu'il
fasse trop chaud. C'est vrai que la chaleur, c'est le plus difficile.
Alors, rappelons peut-être les tarifs aussi, parce que c'est toujours intéressant de le dire. Donc, si on s'inscrit pour le trail avant le 9 avril, ça coûte...
C'est 11 euros.
Voilà. Et sinon...
13 euros le jour J.
Et donc pour la randonnée,
c'est à 4 euros et donc les 4 euros sont entièrement reversés à la Ligue contre le cancer. Donc pour la rando, il y a un petit ravitaillement au milieu de la rando avec saucisses, rosées, etc. Assez convivial. Et à l'arrivée, pareil, donc on paye l'apéritif. Mais voilà, c'est vraiment, on tient vraiment à cette action-là qui pour nous est importante.
Alors dans les perspectives aussi pour Pleine Nature Organisation, rando gourmande, rando nocturne, c'est en prévision pour alors c'était à l'automne, hein,
oui.
fin d'été plutôt.
Voilà.
Et c'est toujours prévu pour.
Toujours.
Ouais, donc, pas de nouveaux projets aussi ?
Si, on en a. On a toujours des projets. Donc la rando gourmande aura lieu de mémoire le 10 septembre. Donc là, on est en train de travailler sur les parcours parce qu'on essaye de varier les parcours. Comme chaque année, ce sera limité à peu près à 500 personnes. Voilà, donc là, cette année, ça sera plus Corniche des Gorges. Et après, la rando nocturne, c'est au mois d'octobre, pareil, le 10 octobre, donc au départ du Massegros, là. Et pareil, donc ouvert à 350 personnes.
Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans une rando nocturne dans les Gorges du Tarn ?
Rando nocturne, on a les sens qui sont en éveil. Il faut l'avoir pratiqué pour s'en rendre compte. C'est vrai que on a toujours une réticence à participer à ça, parce qu'en plus, nous, on le fait en rando pédestre et VTT. Mais je peux vous dire, quand vous retrouvez en Corniche des Gorges du Tarn, en VTT, et que vous sentez et que vous savez qu'il y a le précipice à côté de vous, ça se ressent. On ne voit rien, mais ça se ressent. On sent une attraction des gorges qui est assez intrigante, assez sympa. Puis on a l'affût du moindre bruit. Hein. Le moindre bruit, on s'imagine de suite qu'il y a un sanglier qui va sortir de derrière un buis, etc. Et du coup, on a des sensations assez sympas. Voilà, donc l'année dernière, ça a super bien marché. Et après, on avait un petit concert. Enfin, voilà, c'était un super événement.
Voilà, donc les rendez-vous sont pris. Alors, le premier, évidemment, c'est celui du trail des Gorges du Tarn. C'est le dimanche 9 avril. Et donc, à partir de Saint-Rome de Dolan, vous pourrez retrouver toutes les infos sur plaine-nature-organisation.fr. Une petite virgule musicale et on retrouve Hashtag. Allez, c'est le moment de la chronique hashtag, que je reprends, hein, puisque Adeline nous a abandonnés. Alors avant de vous donner les mots dièses hein, de la semaine, hein, toujours pour parler en bon français, vous parlez un petit peu d'un article intéressant que je mettrai aussi sur le Facebook qui concerne un site qui s'appelle Politologue, et c'est un cas concret d'utilisation de l'open data. Alors vous pourrez aller voir, puisqu'ils font même des prévisions de qui pourrait être notre futur président de la République. Et c'est assez surprenant. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont moulinés dans ce site politologue.com, qui est une initiative citoyenne d'un particulier et qui vraiment, avec cette logique d'open data, donc finalement en utilisant plein de données diverses et variées, montre un état des lieux de la France et avec vraiment des choses qui sont données, parce que voilà, donc on sait qu'aujourd'hui de plus en plus d'administrations, de structures mettent leurs données en accès libre, et donc ça permet de générer ce genre de choses. Alors par exemple, vous avez des statistiques sur les prénoms, sur le chômage, sur les accidents de la route, sur la réserve parlementaire, voilà, et puis sur les candidats à la présidentielle, c'est assez original, sachant que le site avait réussi à mettre en évidence que c'était François Fillon qui sortirait en premier des primaires de la droite, idem pour Benoît Hamon. Idem pour Trump en le faisant sur les États-Unis. Donc c'est assez troublant à lire. Donc je vous invite à découvrir.
C'est pour ça que tu nous dis pas qui sera le futur président.
Je vous le dis pas, mais je vous invite à aller le voir. Vous verrez. Enfin, l'article est très intéressant et ce site donc politologue.com est à découvrir. C'est une petite la petite bribe de chronique hashtag pour aujourd'hui. Pour les hashtags de la semaine, du jour, hein, côté national et international, ce sont évidemment les attentats de Londres qui ont fait le buzz au moins hier. Donc voilà, il y a eu beaucoup de posts là-dessus. Enfin, l'attentat de Londres plutôt au Parlement de Grande-Bretagne. Et puis en Lozère, c'est plutôt avec le hashtag Lozère, beaucoup d'activités en lien avec le tourisme. Un certain nombre d'offices de tourisme sont au Salon de la Randonnée à Lyon. Et puis c'est un peu la période, on le disait avant de commencer l'émission avec Alexandre, c'est un peu le moment où tout le monde est en train de préparer un peu ses vacances d'été. Et c'est le moment aussi où les différents territoires mettent en avant un peu leur projet, leur territoire pour faire venir du monde. Donc voilà un petit peu l'actu lozérienne.
Oui, en plus cette année, au mois de mai, il y a plusieurs ponts, donc c'est vrai qu'il y aura plus d'activités que d'habitude au niveau tourisme.
Oui, il y a une année effectivement...
Oui, qui est intéressante au niveau des ponts. Ouais. Après, voilà, comme toujours, c'est la météo qui dictera un peu la fréquentation. Fréquentation.
Et alors, il ne faut pas oublier que si on part sur les ponts, il ne faut pas oublier de aussi faire sa procuration pour les élections, puisque c'est quand même aussi important. Ça va tomber un peu en même temps au milieu de tout ça. Voilà, donc voilà pour la chronique hashtag, un petit peu plus courte que si c'était, ça avait été Adeline. Mais je vous invite vraiment à découvrir ce site et cet article qui est vraiment très intéressant. Pour cette deuxième coupure musicale, on va faire un petit clin d'œil à l'actualité culturelle mandoise avec le concert de vendredi soir à 20h30 au théâtre avec Christophe. Alors évidemment, pour parler du chanteur Christophe, je vous propose d'écouter sa chanson, son tube, les fameux mots bleus.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Ce qui rend les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont fauchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. D'amour sans parole n'a plus besoin du protocole et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je avec les yeux, je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux.
Termine cette émission pour cette troisième partie avec la revue de presse. Eric, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Il n'y a pas de femme avec nous aujourd'hui. Donc.
Oui, c'est ça. C'est finalement très paradoxal. Je pense que tu avais choisi ça en te disant que ça ferait de l'écho, notamment auprès de Caroline, mais
non, pas.
Même pas. Ouais. Ça n'avait même pas convaincu de venir. Ouais. Triste.
Je ne sais pas si cela vous est arrivé de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de la princesse de Clèves. Imaginez un peu le spectacle. Bon, 11 ans après les propos polémiques de Nicolas Sarkozy sur le plus célèbre roman de Madame de Lafayette, la célèbre précieuse refait l'actualité. Donc, suite à une pétition lancée par Françoise Cahen, ou Cahen, je ne sais pas comment on dit.
Je ne sais pas. Cahen, je crois.
Professeur de lettres, l'écrivain du XVIIe siècle devient donc la première femme à être officiellement inscrite au programme du bac littéraire. Il était temps.
Oui. Effectivement.
Donc en 2018, les élèves de terminale L devront en effet plancher sur l'un des romans de Madame de Lafayette paru en 1662, La princesse de Montpensier. Bon, on pourrait presque croire qu'il existait un complot pour que ne soient pas étudiées d'œuvres littéraires écrites par des femmes. En effet, les études littéraires comme les institutions littéraires plus généralement sont teintées de sexisme. Or, l'histoire de la littérature est remplie de femmes, mais les clichés et leur influence ont véritablement pris le pas sur l'histoire, au point de nous faire totalement ignorer. Pendant toutes nos études, ou presque, l'existence des femmes qui étaient pourtant importantes. Pourquoi Madame de Lafayette plutôt qu'une autre plus contemporaine ? Peut-être parce qu'on peut rattacher cela au type de roman qu'elle produit, des romans dits précieux, voilà, qui parlent d'amour et de sentiments. Donc ce n'est sans doute pas un hasard que pour une fois, c'est une femme qui est considérée à la tête d'un mouvement littéraire. Alors, c'est tout de même donc voilà, un premier pas avec un grand classique, en espérant que ce ne soit que le début.
Très bien, mais voilà, moi je vais vous parler, on va rester dans la littérature et pour mon article, un article du magazine Néon, hein, comme d'habitude, avec moi, avec le titre « Comment écrire un best-seller, la méthode scientifique en 10 points ». Voilà, prédire effectivement le succès d'un roman, tous les éditeurs auraient pu, enfin en rêve, hein, certains l'ont fait, Jody Archer, éditrice, et Matthew L. Jokers, chercheur à l'Université du Nebraska, ont passé 5 ans à tenter de trouver les clés du succès. Dans leur équation, pas de plan marketing ou de nom prestigieux, juste le texte brut donné à analyser à 1000 ordinateurs. Et donc ça ne parle pas de bons ou de mauvais livres, ça cherche juste à comprendre la nature des livres qui atteignent le top des ventes. Donc ils ont mesuré les caractéristiques des romans et les ont mis en relation avec les ventes. En comparant tous les numéros 1 des ventes depuis 30 ans au corpus d'ensemble de la littérature, ils ont repéré quelques réponses qui fonctionnent aussi bien pour le dernier Marc Lévy que pour un prix Pulitzer. Ils n'ont pas trouvé une méthode, mais des redondances, des thèmes forts, des styles précis. Pour chaque livre, ils ont obtenu un potentiel de best-seller, ce qui donne quelque chose comme ça. Alors, les grands conseils, déjà, écrivez sur ce que vous connaissez. Voilà. 2. Ne misez pas sur sexe, drogue et rock'n'roll.
C'est bizarre, ça.
Ben oui, mais vraisemblablement, ça marche très 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 mal, voilà. mais il conseille de bien placer sa première scène de sexe dans le bouquin, hein. Mettez-la exactement au milieu du bouquin et donnez-lui un sens. Elle doit faire avancer l'intrigue. Chiadez votre première phrase, autre conseil, hein. Elle doit être simple, résumer une partie de l'histoire tout en laissant imaginer un premier conflit. Aucun mot inutile qui ne soit lié à l'introduction de la scène ou des enjeux. Il faut créer un héros actif, voilà, pour que ça bouge. Et l'âge idéal de l'héroïne, hein, puisque prioritairement ce doit être une femme, c'est de 28 ans. Voilà. Optez pour un style clair. Voilà, donc ça c'est. Choisissez vos verbes, à privilégier vouloir, devoir, marcher, avoir, besoin, manquer, aimer, à éviter, protester, murmurer, hésiter, avoir l'air, attendre, souhaiter. Voilà, ça vous pouvez y penser, hein, pour votre futur best-seller. Il faut jouer sur le rythme, il y a les 40 premières pages qui sont là pour accrocher le lecteur. Avec un premier rebondissement, puis ensuite vous pouvez vous lancer dans les montagnes russes, l'émotion négative, le drame, les obstacles, et puis l'émotion positive, l'amour, l'accomplissement, la réussite, puis négative, etc. Il faut passer à chaque fois du plus au moins, de l'espoir, entre espoir et déception. Alors, conseil numéro 8, soyez une femme ou écrivez comme telle. Donc voilà, hein, les.
C'est fini pour nous.
Ouais, bah, on peut écrire comme telle, hein, mais voilà, mais l'algorithme a montré qu'un ensemble de critères, aussi anecdotiques que la régularité de tel article indéfini, permettent de comprendre le sexe de l'auteur. Or, on retrouve largement ces critères dans les best-sellers, même écrits par des hommes. C'est le fameux parler de notre époque abordé précédemment.
Mais ça permet pas de rentrer au bac littéraire, par contre.
Et voilà, c'est ça le problème. Hein. C'est quand même bizarre. Soigner le titre, ça peut être un nom commun, un lieu. Privilégier le, qui indique la particularité de votre histoire, à un, qui ne s'emploie que pour du métaphysique ou de l'universel. Et voilà. Et si vous voulez y caser le nom du héros, ajoutez-y l'enjeu. Voilà. Et enfin, ne croyez que votre talent, puisque 3 best-sellers ont été rejetés par des maisons d'édition qui ont bien dû le regretter. La ferme des animaux de George Orwell, Harry Potter de J.K. Rowling, L'espion qui venait du froid de John le Carré. Et 3 livres qui ne cartonnent pas au best-sellerromètre et pourtant, Game of Thrones, Orgueil et préjugés et zombies et Les enfants de Hurin. Voilà.
Mais lors de leur dernière émission, là, par le bout de la lorgnette, ils racontaient un peu comme ça aussi, oui, comment on faisait les livres. Et il y avait un livre là-dessus pour dire qu'il fallait rentrer dans telle case, que le héros fasse telle chose, l'héroïne telle chose, qu'il fallait surtout pas sortir des critères prédéfinis. Ouais.
Voilà, c'est une méthode. Donc c'est pareil, vous retrouverez cette essence du best-seller sur notre page Facebook. Voilà, bah c'est terminé pour cette émission de cette semaine. On va rappeler peut-être les façons de contacter, de s'inscrire pour et de retrouver toutes les infos pour le Trail des Gorges du Tarn. Donc c'est le dimanche 9 avril, c'est ça ?
Voilà, donc dimanche 9 avril au départ de Saint-Rome-d'Odolan. Trail des Gorges du Tarn, donc 11 ou 26 km, une rando 10,5 km. Vous pouvez vous inscrire, donc télécharger le bulletin sur le site internet. Tout simplement sur moteur de recherche, vous tapez Trail des Gorges du Tarn et vous verrez donc Pleine Nature Organisation sortira. Et là, vous aurez toutes les démarches et vous pouvez le jour J, donc le dimanche 9 avril, sur place vous inscrire. Il n'y a aucun problème.
Merci beaucoup Alexandre d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour cette émission. Émission qui sera rediffusée mardi à 12h30 et jeudi prochain à 19h. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous retrouver sur la page Facebook et sur la page Twitter de Los Actuali, page spécifique. Et puis bien sûr sur le site de 48FM, vous pouvez réécouter l'émission autant de fois que vous voulez. À très bientôt, bonne semaine, bonne quinzaine à tous.
À bientôt.
À bientôt.
L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
Nos Actuali, le nouveau magazine de 48FM.